Audiolib présente Kafka sur le rivage de Haruki Murakami.
Lu par Hervé Bernard Omnes.
Le garçon nommé Corbeau. Et pour l'argent, ça s'est arrangé ? Demande le garçon nommé Corbeau. Il parle de sa façon habituelle, un peu lente, comme quelqu'un qui sort à peine d'un profond sommeil et ne peut remuer ses lèvres tant elles sont engourdies. Mais ce n'est qu'une apparence. En réalité, il est parfaitement lucide. Comme toujours. Je hoche la tête. Tu as combien à peu près ? Je lui réponds après avoir à nouveau passé les chiffres en revue dans ma tête. Environ 400 000 en liquide, sans compter une petite somme que je pourrais retirer avec ma carte bancaire. Ça ne suffira peut-être pas, mais c'est un bon début. Ce n'est pas mal, dit le garçon nommé Corbeau. C'est un bon début. Je hoche la tête. J'imagine que ce ne sont pas les étrennes du Père Noël, poursuit-il. Non. Le garçon nommé Corbeau regarde autour de lui, les lèvres tordues par un sourire narquois. Cet argent sort du tiroir d'une personne qui vit dans les parages, c'est exact ? Je ne réponds pas. Il sait parfaitement d'où vient cet argent. Il n'y a pas lieu de poser des questions détournées. Il le fait juste pour masticoter. « Allez, c'est bon, » dit le garçon nommé Corbeau. « Tu as besoin de cet argent. Absolument besoin. Alors, tu te le procures. Tu l'empruntes en douce ou tu le voles. Peu importe. De toute façon, c'est l'argent de ton père. Avec ça, tu pourras t'en sortir, au début. » Mais qu'as-tu l'intention de faire quand tu auras épuisé ces 400 000 yens ? L'argent ne pousse pas dans un porte-monnaie comme les champignons dans la forêt. Il faudra que tu manges, que tu trouves un endroit où dormir. À un moment ou à un autre, tes ressources finiront par s'épuiser. J'y réfléchirai le moment venu. Le garçon nommé Corbeau répète ce que j'ai dit, comme s'il soupesait mes paroles dans sa paume. Je hoche la tête. « Tu trouveras du travail, par exemple ?»« Peut-être. » Le garçon nommé Corbeau secoue la tête. « Dis donc, il va falloir que tu comprennes dans quelle société on vit. Quel genre de travail crois-tu qu'un garçon de 15 ans, loin de chez lui, peut trouver ?» Tu n'as même pas achevé ta scolarité. Qui va employer quelqu'un comme toi ? Je rougis un peu. Il m'en faut peu pour rougir. Allez, ça va, dit le garçon nommé Corbeau. Inutile d'envisager le pire avant même de se lancer. Tu es décidé. Il n'y a plus qu'à passer à la phase de réalisation. C'est ta vie, après tout. Au fond, tu fais les choses à ton idée. Exactement. C'est ma vie, après tout. Seulement, tu ne t'en sortiras pas si tu ne t'endurcis pas un peu. Je ferai des efforts, dis-je. Il faut reconnaître que tu t'es pas mal endurci ces dernières années, dit le garçon nommé Corbeau. Je hoche la tête. Mais tout de même, tu n'as que 15 ans. Ta vie commence à peine. Il y a un tas de choses que tu ignores encore en ce monde, dont tu n'as même pas idée. Nous sommes assis côte à côte comme d'habitude, dans le vieux canapé en cuir du bureau de mon père. Le garçon nommé Corbeau aime bien cet endroit. Il en apprécie les moindres détails. En ce moment, il joue avec un presse-papier en verre en forme d'abeille. Naturellement, comme mon père est là, il n'approche pas de cette pièce. « Quoi qu'il en soit, dis-je, il faut que je parte d'ici, c'est certain. »«
Sans doute. »
Il repose le presse-papier sur la table, croise les mains derrière la nuque.
« Mais ça ne résoudra pas tout, » poursuit-il.
« Je vais peut-être encore jouer les rabat-joies, mais ce n'est pas en partant le plus loin possible que tu parviendras à t'échapper d'ici. On ne peut pas en être sûr. N'espère pas que la distance soit la solution. »
Je réfléchis à nouveau au problème de la distance.
Le garçon nommé Corbeau pousse un soupir, se presse les paupières du bout des doigts. Ensuite, il ferme les yeux et me parle du fond des ténèbres.
« Jouons à notre jeu, » dit-il.
« D'accord. » Je ferme les yeux moi aussi et respire profondément, calmement.
« Tu es prêt ?»
demande-t-il. Imagine une tempête. Une terrible, terrible tempête de sable. Oublie tout le reste. J'obéis. J'imagine cette terrible, terrible tempête de sable. J'oublie tout le reste. J'oublie même qui je suis. Je fais le vide dans mon esprit. La réalité se met à flotter devant moi. Cette réalité qui nous entoure tous deux, le garçon nommé Corbeau et moi, assis côte à côte sur le vieux canapé en cuir du bureau paternel.
Parfois, commence le garçon nommé Corbeau,
le destin ressemble à une tempête de sable qui se déplace sans cesse.
Parfois, le destin ressemble à une tempête de sable qui se déplace sans cesse.
Tu modifies ton allure pour lui échapper, mais la tempête modifie aussi la sienne. Tu changes à nouveau le rythme de ta marche, et la tempête change son rythme elle aussi. C'est sans fin. Cela se répète un nombre incalculable de fois, comme une danse macabre avec le dieu de la mort, juste avant l'aube. Pourquoi ? Parce que cette tempête n'est pas un phénomène venu d'ailleurs, sans aucun lien avec toi. Elle est toi-même et rien d'autre. Elle vient de l'intérieur de toi. Alors, la seule chose que tu puisses faire, c'est pénétrer délibérément dedans. Fermer les yeux et te boucher les oreilles afin d'empêcher le sable d'y entrer. Et la traverser pas à pas. Au cœur de cette tempête, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de lune. Pas de repère dans l'espace. Par moments, même le temps n'existe plus. Il n'y a que du sable blanc et fin comme des eaux broyées qui tourbillonnent haut dans le ciel. Voilà la tempête de sable que tu dois imaginer.
J'imagine une tempête de sable telle qu'il la décrit. Une trombe de sable blanc s'élève droit vers le ciel, pareille à un épais cordage.
Je ferme les yeux et me bouche les oreilles des deux mains, afin que ce sable fin ne pénètre pas à l'intérieur de mon corps. La colonne se rapproche, se dirige droit sur moi. Je sens la pression du vent sur ma peau. La tempête s'apprête à m'avaler.
Alors le garçon nommé Corbeau pose une main sur mon épaule.
Et la tempête disparaît. Mais je garde les yeux fermés.
À partir de maintenant, tu dois devenir le garçon de 15 ans le plus endurci du monde, quoi qu'il arrive, parce que c'est le seul moyen que tu as pour survivre en ce monde. Et pour cela, il faut que tu comprennes par toi-même ce que cela signifie de devenir un vrai dur. Compris ?
Je reste silencieux. J'ai envie de sombrer lentement dans le sommeil, comme ça. Avec la main du garçon sur mon épaule. Je perçois un léger battement d'ailes près de mes oreilles. Tu vas devenir le garçon de 15 ans le plus courageux au monde, murmure le garçon nommé Corbeau,
tandis que j'essaie de m'endormir. C'est comme s'il tatouait ces mots sur mon cœur avec une encre d'un bleu profond. C'est un fait. Tu vas réellement devoir traverser cette violente tempête. Cette tempête métaphysique et symbolique. Mais si symbolique, si métaphysique qu'elle soit, ne te méprends pas. Elle tranchera dans ta chair comme 1000 lames de rasoir affûtées. Des gens saigneront. Et toi aussi tu saigneras. Un sang chaud et rouge coulera. Tu recueilleras ce sang dans tes mains, ce sera ton sang et le sang des autres. Une fois la tempête passée, tu te demanderas comment tu as fait pour la traverser, comment tu as fait pour survivre. Tu ne seras pas très sûr, en fait, qu'elle soit vraiment achevée. Mais sois certain d'une chose. Une fois que tu auras essuyé cette tempête, tu ne seras plus le même. Tel est le sens de cette tempête. Le jour de mes 15 ans, je ferai une fugue. Je voyagerai jusqu'à une ville inconnue et lointaine et trouverai refuge dans une petite bibliothèque. Il me faudra une semaine pour en arriver là, avec toutes les péripéties que cela implique. Car je n'indique là que les points principaux. Le jour de mes 15 ans, je ferai une fugue, voyagerai jusqu'à une ville inconnue et lointaine, trouverai refuge dans une petite bibliothèque. Cette formulation fait un peu penser à un conte de fées. Mais croyez-moi, ça n'a rien d'un conte de fées, dans tous les sens du terme.